S'il vous amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Microclimat.
Bonjour, chers auditeurs, FPP 106.3 FM, à la COI 11. Nous sommes à la COI 11, la Conference of Youth, la conférence de la jeunesse, à Villepinte, Parc des Expositions, qui a une conférence de 3 jours, jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 novembre 2015. Il y a beaucoup de bruit puisque nous sommes le samedi en fin de journée. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. Il faut s'imaginer des préfabriqués avec des tas de salles où se passent des conférences, des happenings, comment réformer le climat, comment changer nos habitudes. Se préparent des concerts pour la fin de la COI 11. Donc voilà, il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais là je vous présente une conférence qu'on a enregistrée dans la journée, le 28 novembre, je vous le rappelle, samedi. On l'a enregistrée donc pour la semaine microclimat de FPP, c'est l'équipe de rendez-vous citoyen. Elle s'intitule « Une société zéro déchet, zéro gaspillage, problématiques et solutions ». L'intervenant est Édouard Marchal, chargé de communication de Zero Waste France. Zero Waste France, une association qui cherche à promouvoir une société donc de zéro déchet. On vous laisse l'écouter. Bonne écoute. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour Fréquence Paris Pluriel, te présenter? Merci.
Donc, je m'appelle Édouard Marchal et je suis donc chargé de communication pour Zero Waste France, donc une association qui promeut une société sans déchets et sans gaspillage, donc au travers voilà, justement de cette thématique d'ateliers, de nombreux événements, enfin de nombreuses actions, excusez-moi, sur le sujet. Et donc notre objectif cette année, c'était de mettre en relation justement cette problématique des déchets et les solutions Zero Waste qui sont à la fois bonnes pour nous, mais bonnes aussi pour le climat. Justement, avec cette COP21, on voulait montrer qu'une des solutions fondamentales, c'est réduire ces déchets et c'est sur quoi j'ai travaillé pendant ces derniers mois. Voilà.
Une toute dernière, comment tu vois s'organiser la COP21? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la COP21, toi, de ta place?
Alors moi, étant dans beaucoup de réseaux associatifs et sociaux, la COP21, au niveau des négociations, ça va être... je ne sais pas si c'est un échec ou une réussite, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui va produire des décisions, qui va produire des mises en route dans certains états de quelque chose d'assez fort. Mais ça va surtout être l'occasion, et ça l'est déjà, de réunir les gens autour du thème. Et on voit bien que cette année, le fait de parler de la COP21, ça a réuni énormément de personnes et ça a créé énormément d'événements. Donc on a parlé de la thématique comme jamais. C'est une mobilisation autour du climat qui n'a jamais été aussi forte. Donc finalement, c'était ça l'enjeu de la COP21 avant tout. Et pour le coup, c'est réussi. Maintenant, ce qui se passera dans les négociations, il se passera ce qui se passera. De toute façon, c'est ce qu'ils ont décidé pendant un an. Est-ce que ce sera contraignant ou pas contraignant? Certaines choses seront contraignantes. Et en l'occurrence, on avancera sur certaines thématiques et d'autres non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et on le voit aujourd'hui, la COI, c'est 5000 jeunes en 3 jours, ça n'a jamais encore été fait. C'est dire quand même qu'il y a une prise de conscience et que cette COP21 a apporté ça finalement dans la société.
Merci.
On reviendra sur cette notion de déchets organiques parce qu'en fait elle est assez fondamentale sur la suite et sur comment est-ce qu'on peut traiter nos déchets dans une démarche zero waste pour aller vers le climat. Donc juste, comment est-ce qu'on les traite aujourd'hui? Il y a deux manières assez simples en France, hein, c'est l'incinération. Donc on prend vos déchets, on les brûle. Et la décharge, donc on met vos déchets tout simplement dans un endroit et on les fait pourrir jusqu'à temps qu'ils deviennent de la terre ou de quelque chose qu'on ne sait pas trop puisque finalement le sous des décharges c'est un peu léger. Alors ça pose quand même un certain problème qui est assez automatiquement, tout le monde s'en rend compte, de l'ordre de l'environnement. A priori, c'est assez simple de se dire que quand on brûle quelque chose et que ça émet de la fumée, a priori, c'est pas bon. Donc ça, on peut le voir, on peut le sentir. Je sais pas si vous avez déjà vu cet incinérateur à Paris qui brûle nos déchets, qui est à Ivry, qui est pas loin de la BNF. Donc pour les Parisiens, vous devez voir. Un incinérateur, ça fait de la fumée. Donc c'est assez visible. La décharge, c'est un peu moins visible. Pourtant, c'est quelque chose d'assez catastrophique, puisque quand on fait pourrir nos déchets, et notamment nos déchets organiques, ça fait des liquides toxiques qui empoisonnent toute une zone. Donc, environnementalement parlant, c'est assez simple de se dire que notre traitement aujourd'hui, il n'est pas bon. L'autre gros problème, c'est le problème financier. Aujourd'hui, en France, ça nous coûte à peu près 14 milliards d'euros de traitement des déchets. Vous allez me dire 14 milliards, c'est pas beaucoup. Mais en fait, ça nous paraît encore beaucoup pour dire qu'on met 14 milliards à la poubelle chaque année, en fait. au lieu d'essayer de trouver des solutions assez viables, on préfère dépenser de l'argent à les mettre directement justement dans le feu ou dans une décharge. Et assez naturellement, si ça cause un problème sur l'environnement et au niveau économique, ça pose aussi un problème au niveau du climat. Les déchets, aujourd'hui dans le monde, on considère que c'est environ 5% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le chiffre officiel. Et là-dedans, vous prenez en compte seulement le traitement, donc l'incinération, la mise en décharge, qui émet du méthane. Pour ceux qui connaissent, c'est un gaz qui est 20 fois plus réchauffant que le CO2. Et la collecte des déchets. Donc c'est vraiment les trois postes qui sont pris en compte, et ça représente 5%. 5%, c'est pas énorme. Du coup, c'est un peu un non-sujet aujourd'hui, les déchets au niveau du climat. On se dit, voilà, c'est un secteur, oui, bon, pourquoi pas, c'est un peu polluant, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus important. Il y a le transport, il y a l'alimentation, il y a l'agriculture. Nous, en fait, on n'était pas vraiment d'accord avec ça à Zero Waste France, parce qu'on s'est dit, mais quand ils ont sorti ces chiffres-là, on s'est dit, mais attendez, ça veut dire qu'en fait, pour vous, un déchet, il naît tout seul, et il va se faire brûler tout seul. Vous ne prenez pas en compte qu'il y a une vie avant d'être un déchet, peut-être. Donc on a commencé à fouiller. On s'est dit, mais oui, en fait, il y a vraiment une vie. Et tout le monde le sait qu'il y a un cycle de vie de produit. Ça commence par de la ressource qu'on va puiser. Et puis après, il y a tout un long voyage que votre produit va faire pour arriver dans votre frigo. Et ça, ça va émettre des déchets en masse. Ça va gaspiller énormément de ressources. Et donc, ça va aussi émettre énormément de gaz à effet de serre dans tout ce qui est transport, extraction de toute votre ressource, jusqu'à temps qu'il se fasse brûler. Donc finalement, quand on prend en compte les déchets, il faudrait prendre en compte tout le cycle de vie d'un produit et tous les déchets qu'il va émettre jusqu'à temps qu'il soit brûlé. Et ça, ça représente bien plus que 5%. En fin de compte, c'est pratiquement tout. Si on prend, on n'a même pas de chiffre exact pour calculer, puisque quand on dit, par exemple, on transporte des produits dans le monde, ça, ça va être mis dans les émissions de transport quand on va calculer au niveau mondial. Du coup, on ne saurait même pas dire à quel point c'est impactant au niveau du produit. Mais si vous vous rendez compte que ça parle de notre production, donc de notre consommation, en fin de compte, le fait de créer un déchet, c'est le fait de faire vivre tout un cycle de produits, donc tout un système de consommation qui émet des gaz à effet de serre et donc qui est mauvais pour le climat. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru assez élémentaire. Donc on a fait un rapport là-dessus et on l'a présenté il n'y a pas très longtemps pour montrer qu'en fait, lutter contre les déchets aujourd'hui, ça veut dire finalement lutter contre toute cette chaîne. Donc c'est bien plus puissant que seulement se dire « je vais éviter un déchet ». Quand on évite un déchet aujourd'hui, a priori, on évite de créer tout ce qu'il y a en amont et en aval. Donc, en fait, voilà, c'est l'impact indirect dont je vous parlais. Là, c'était l'exemple, on avait fait l'exemple des couverts en plastique. Les couverts en plastique, vous connaissez tous, quoi. Donc, on a l'extraction de pétrole qui va être nécessaire à sa création. On a le petit camion, le petit bateau qui vont les transporter. On a de la fabrication et du conditionnement. Transport, distribution, consommation. Et puis, finalement, pour que ça finisse en décharge. Ça veut dire qu'en fait, on a un produit, une ressource qui voyage dans le monde entier pour finir en décharge et en incinération. Ça veut dire pour finir à créer encore plus de mal que ce qu'il a fait en voyageant jusqu'à notre frigo. Vous comprenez ? C'est assez fort en fait comme message parce que c'est le schéma linéaire. Excusez-moi, la journée a été longue. C'est le schéma linéaire en fait d'un produit qui finit aujourd'hui dans notre société en décharge sans être valorisé. Alors avant que vous me posiez les questions de la valorisation, justement, je fais un point sur l'incinération et la valorisation qui va avec, parce que c'est comme ça qu'on le vend aujourd'hui. Aujourd'hui, un incinérateur, on considère que ça crée de l'énergie renouvelable, parce qu'en fait, on arrive à tirer effectivement de l'électricité ou de la chaleur grâce à l'incinération de nos déchets. Et aujourd'hui, c'est l'argument de se dire il faut incinérer nos déchets parce qu'avec ça, on crée de l'énergie. Et donc, elle est renouvelable parce qu'on a toujours plus de déchets pour faire de l'énergie. C'est magnifique, non ? Enfin, donc ça, c'est un peu les arguments aujourd'hui qui rentrent en compte. Et pour la décharge, il y a souvent cet argument de dire on arrive à capter le méthane et en faire une énergie. Mais donc, en fait, la logique de tout ça, c'est de se dire continuons à créer les déchets. De toute façon, on a des méthodes qui, sont pas très bonnes pour l'environnement. Mais bon, d'un autre côté, vous voyez, on crée de l'électricité, on crée des réseaux de chaleur. Et puis surtout, il faut bien dégager nos déchets. On crée des déchets, on va les dégager. Donc, il faut trouver des solutions pour ça. Donc la logique aujourd'hui, elle est comme ça en France, elle est comme ça dans le monde, et elle risque pas, a priori, d'évoluer au vu de ce qui se passe en ce moment. Et c'est là qu'intervient, du coup, la démarche Zero Waste pour se dire, mais si on pensait autrement, si on se demandait pas comment gérer nos déchets, mais plutôt comment ne pas les créer. Donc, Les 3 R, vous les connaissez sûrement, hein, c'est quelque chose d'assez classique quand vous commencez à vous intéresser à la problématique. La première chose, recycler. Donc ça, c'est aujourd'hui un objectif qu'on a en France, c'est de recycler. Et comme je vous disais au début, finalement, c'est un truc assez naturel qu'on se dit, voilà, on lutte contre l'environnement, on recycle. Sauf qu'en fait, ça ne peut pas être une fin en soi, tout simplement parce que recycler, ça veut dire que votre produit, vous allez quand même à un moment, enfin, votre matière, vous allez la transformer pour recréer une matière. Ça veut dire que si on rentre dans une société du recyclage, on va sans arrêt recréer de la matière à partir d'une autre matière, et donc on va faire fonctionner des machines, on va faire fonctionner du transport, et on va faire fonctionner à moindre échelle, mais à une échelle quand même assez importante, tout le système de production et de transport qu'on utilise aujourd'hui dans nos produits. Vous comprenez ? Donc on va émettre des gaz à effet de serre en recyclant, et on va gaspiller une certaine ressource parce qu'on ne peut pas tout recycler à 100%. Même le verre se recycle effectivement très bien, mais c'est limité. Et à un moment, ça crée quand même... On a besoin de le chauffer, le verre, si vous voulez. On a besoin de le faire fondre, donc ça crée ça aussi encore de l'énergie. Donc recycler, c'est une première étape, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Du coup, on va s'intéresser à plutôt comment est-ce qu'on réutilise le produit. Donc aujourd'hui, c'est la vraie démarche Zero Waste, c'est comment est-ce qu'on fait pour réutiliser une matière plutôt que d'en recréer une. Ça, c'est très fort. Parce que si vous réutilisez un produit, vous l'aurez créé qu'une fois, et après, il va commencer à rentrer dans un cycle. Donc comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, on connaît assez facilement le principe de consigne d'une bouteille, par exemple. C'est quelque chose qu'on a vu exister à une certaine époque, qu'on a abandonné avec le tout plastique, mais qui aujourd'hui commence à revenir. La consigne, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à tout. Vous avez un emballage qui sert ad vitam aeternam à mettre toutes vos denrées, tout ce que vous achetez aujourd'hui, tout ce que vous empaquetez, et qui ne soit jamais détruit. Ça paraît tout bête, mais en faisant ça, vous cassez tout le reste. L'entièreté du système de production et de consommation s'effondre à partir du moment où on ne consomme plus des choses emballées. Puisque si on ne consomme plus des choses emballées, a priori, on ne va plus créer la ressource pour les emballer. Donc du coup, on va effectivement réduire énormément nos émissions personnelles, nos émissions sociétales, enfin de la société, juste par réutiliser quelque chose. Donc par exemple, ce fameux sac plastique, ce bon vieux sac plastique dont on parle souvent, genre prenez votre petit sac avec vous, tout on dit oui, c'est sympa, mais quand même, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, alors, sauf qu'en fait, fois des milliards, c'est toujours pareil, c'est énorme. Surtout que le sac plastique, il est non seulement, il crée du déchet à lui tout seul, enfin, il va aller en mer et tout ça, enfin, vous connaissez l'histoire, des oiseaux qui se plantent dedans, des phoques et tout, mais en plus, il va finir dans notre poubelle et donc il va finir brûlé. Donc c'est typiquement le truc où on prend un sac plastique quelque part, on le met à la poubelle, il finit brûlé, enfin, il a servi 2 secondes et il a pollué et il a détruit des ressources 10 fois plus, 20 fois plus que ce qu'il aurait pu, ce qu'il a émis lui-même. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc en fait, ça paraît un peu bête, mais ne pas prendre un sac plastique, c'est couper toute cette production de sac plastique. Ne pas prendre son petit sachet quand on achète une baguette de pain, c'est couper toute la production du sachet aussi. Donc en fait, c'est de réutiliser nos produits. Donc ça passe avec les vêtements, ça marche avec énormément de choses, ça marche avec nos ordinateurs, ça marche avec tout ce qu'on achète aujourd'hui. Mon portable, par exemple, c'est un portable reconditionné. Alors, c'est pas le Fairphone, tout ça, mais n'empêche que moi, aujourd'hui, j'achète plus rien d'occasion, l'ordinateur aussi est d'occasion. C'est des choses qui ont été reconditionnées à un moment, qui ne marchaient plus, et qui ont été remis dans le commerce, et là, j'évite à moi tout seul des milliers de tonnes de carbone, juste parce que j'ai pas acheté mon portable qui vient de Chine et tout et tout. Parce que, en fin de compte, le but, c'est pas de se priver de quelque chose, c'est plus de réapprendre à vivre avec autre chose. Mais autre chose qui fonctionne. C'est juste que c'est autre chose qui, a priori, rapporte moins d'argent aux industries. Le jour où les industries décident de se mettre à faire que du vrac ou à vendre les choses ou à les réparer, ils créent un nouveau business model et donc ils peuvent recommencer à faire de l'argent entre guillemets dessus. Mais là, quand on parle de ça, on coupe toute la démarche de l'industrie qui dit bah, « moi, de toute façon, je veux vendre en gros, donc je vais puiser quelque part, je vais empaqueter mes choses parce qu'il n'est pas possible de transporter quelque chose dans ces immenses bateaux qui vous transportent des trucs dans le monde entier sans être emballé. Donc c'est hors de question de toute façon que je rentre dans cette démarche-là. » Et derrière, je vais payer ma taxe des poubelles, je vais mettre un petit logo « Je recycle mes déchets » et ça ira bien. Aujourd'hui, c'est ça la démarche des entreprises, enfin des industries du moins. Donc, Ça, c'est problématique. Et en fait, nous, on a un pouvoir bien plus fort que ce qu'on imagine avec cette démarche-là. Et la dernière, du coup, c'est réduire. Parce que comme on ne peut pas avoir une croissance verte, on ne peut pas non plus avoir une vie zéro déchet sans réduire ses déchets. Parce qu'à un moment, bah, c'est bien compliqué. Donc, c'est la fameuse sobriété dans la consommation. Et surtout, en fait, retrouver un contact à notre consommation qui soit beaucoup plus local. Donc, les bénéfices de tout ça, ils sont en fait bien plus forts qu'on imagine, parce que si vous décidez dans votre vie d'adopter cette démarche zéro waste, ça veut dire que vous décidez de consommer et donc de produire complètement différemment. A priori, ça paraît insensé donc de faire venir des produits en vrac et d'acheter en vrac depuis la Chine. Enfin, je veux dire, a priori, ça va être impacté tout ça. Donc, vous allez devoir vous tourner vers le local. Donc vous allez recréer une économie locale, vous allez commencer à acheter vers vos boutiques locales, vous allez acheter du fromage, enfin tout ce que vous voulez, et là ça va commencer à faire vivre les commerçants locaux, votre pain, tout ça. Parce que aller acheter du vrac dans un supermarché, en France ça n'existe pas. Il y a des villes qui l'ont fait, San Francisco par exemple, mais en France ça n'existe pas. Donc du coup c'est local. Souvent pour l'instant en France, les démarches locales sont, alors pas toutes, mais généralement bio, donc vous allez commencer aussi à mieux vous nourrir. Vous allez donc non seulement faire vivre ça, donc recréer un écosystème, éviter vous de mettre des déchets, donc du coup préserver l'environnement et vous préserver vous-même. Vous allez avoir une vie beaucoup moins encombrée par vos déchets. Et en fin de compte, vous allez avoir un impact sur le climat, mais qui est formidable. Qui est formidable. C'est-à-dire qu'une ville qui décide de passer vers le zéro déchet, c'est une ville qui va recréer tout un système autour d'elle et qui va juste... et participer fois 10, fois 100, fois 1000 à ne pas émettre d'émissions dans le monde. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important, et c'est justement en regardant ces cycles de vie et en regardant comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de cyclique, parce qu'on parle de ça, hein, une démarche zero waste, c'est avant tout une démarche cyclique, qu'on arrive à comprendre en quoi finalement cette démarche est fondamentale dans l'action pour le climat. Voilà, donc dans les marges zero waste, ce que je disais tout à l'heure, 30% de nos poubelles se décomposent en déchets organiques. Aujourd'hui, ces déchets organiques, ils vont en incinération ou en décharge. Donc, soit dit en passant, un déchet organique, hein, c'est avant tout de l'eau. Donc, vous brûlez de l'eau dans un incinérateur. C'est assez absurde quand on y pense. Mais c'est surtout quelque chose qui est... Voilà. Ouais, je répète. Donc, déchets organiques, c'est 30% de notre poubelle. Et un déchet organique, c'est quelque chose qui va, a priori, très, très bien se valoriser. Ça fait quoi ? Du compost. Et quand on les met dans un endroit un peu confiné, ça crée du méthane, CH4. Ça, on peut en faire du gaz. Le compost, c'est le retour à la terre. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont vu Pierre Rabhi ou n'importe quelle personne, ça parle de ça, quoi. C'est fondamental. On a des légumes, on a des matières organiques qui poussent, on les mange, on les remet dans la terre, c'est fini. On n'a même pas besoin de passer par la case incinérateur ou décharge. C'est très, très facile. Ça s'appelle, en fait, réduire ses déchets à la source. C'est une collecte à la source. Si on commençait à avoir tous des collectes à la source dans nos poubelles en France ou dans les villes, on aurait 30% de poubelles qui dégagent. On a aussi les odeurs qui dégagent, mine de rien. Parce que ce qui sent mauvais dans votre poubelle, c'est le déchet organique. Et on a une valorisation de cette matière qui est formidable. C'est, là, pour le coup, on a quelque chose de cyclique. Donc, préserver la matière, c'est à la fois essayer d'adopter justement cette démarche de ne pas acheter d'emballages qui créeront des déchets, mais c'est aussi de valoriser ce qui peut être valorisé en direct, à savoir de la matière organique. Moi, je vis dans une maison à Bourg-la-Reine, on a un compost, on s'en porte très bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai des amis qui vivent dans des appartements à Paris, ils ont des lombris compost, ça marche très bien aussi. Et là-dessus, ce qui est assez cool, c'est effectivement le fait que vous pouvez stocker vos déchets un peu plus longtemps parce que ça ne sentira pas mauvais. Et ça, encore une fois, ça paraît un peu symbolique, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que si on ne s'intéresse pas à nos déchets, c'est aussi parce qu'on les trouve moches, on les trouve inintéressants, on les trouve nauséabonds, enfin tout ce qui va avec. Aujourd'hui, être éboueur, a priori, c'est quelque chose que personne ne veut faire. Parce qu'on se dit, si c'est pour travailler dans la saleté toute la journée, oui, sauf qu'en fait, on pourrait avoir une manière de collecter les déchets qui soit beaucoup plus propre que ça. Et a priori, le métier des boueurs pourrait devenir beaucoup plus agréable que ce qu'il est déjà, si on faisait ce genre de choses. Dans l'autre démarche, donc, on reparle de l'économie circulaire. Hein, je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà vu ce terme, économie circulaire. Simplement, de la... de la ressource jusqu'à la ressource, on peut avoir tout un cycle qui fait que le produit n'est jamais jeté. Donc c'est ce qu'on va appeler l'éco-conception, l'éco-design. C'est comment est-ce qu'on crée finalement un produit qui n'est pas voué à être jeté, mais qui est voué à réutiliser, voire upcycler. Donc c'est l'upcycling qui rentre en jeu. C'est donner une vie encore plus belle, on va dire, ou plus intéressante à votre déchet. Donc ça, aujourd'hui, ce sont non seulement des secteurs qui se développent, donc du coup, ça crée des emplois, ça crée de l'économie, mais en plus, c'est des démarches qui, du coup, encore une fois, cassent toute la chaîne qu'on a, nous, inventée dans notre société. Donc c'est hyper intéressant. Et quand je dis que ça se développe très bien. C'est quelque chose en devenir, vraiment. On parlait tout à l'heure, donc, du coup, des magasins locaux, donc on essaye de faire revivre une économie. En France... Je vous en parlerai après, du réseau VRAC. Donc, économie circulaire, éco-conception, éco-design, c'est repenser en fait notre manière de créer des produits aujourd'hui, et ça ne veut pas dire ne pas les créer. C'est vraiment ça le message. On n'est pas en train de dire arrêtons de vivre comme on vit, c'est plutôt devenons intelligents dans la manière dont on vit. Ça veut dire au lieu d'avoir... de l'eau potable qui s'en va par milliers de litres dans nos toilettes chaque année, pourquoi pas avoir simplement la récupération d'eau de pluie pour nos toilettes. On va dire, oh, c'est compliqué, nana. Ouais, bah regardez Los Angeles, ils l'ont fait. Et il y a plein de villes qui le font en France. Il y a plein d'habitants qui le font aussi. C'est vraiment pas compliqué. C'est simplement une manière de se dire, mais comment est-ce qu'on crée un process différent? Et ça, c'est fondamental. Cette eau potable qui part dans nos toilettes, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me... J'ose même plus tirer la chasse, quoi. Je me dis, mais c'est quand même absurde. C'est quand même absurde quand on voit, en plus, aujourd'hui, la manière dont on gère notre eau et la manière dont, déjà, on manque. Ça paraît bête, mais... Donc, du coup, les alternatives, il y en a beaucoup, mais ça commencerait par dire, réutilisons l'eau de pluie. Il n'y a que ça qui tombe, c'est super simple. C'est des citernes, hop, ça va dans les toilettes, c'est fini, quoi. C'est très, très simple. Donc, l'économie circulaire, un grand pilier. Et donc, du coup... Donc dans les solutions, ce qui va nous apporter plus d'emplois. Alors, pour vous faire une idée, un incinérateur, ça va être à peu près 10 emplois pour faire brûler entièrement une machine de déchets. Enfin, en gros, il faut 10 personnes pour faire fonctionner plus ou moins l'incinérateur. Le recyclage, ça va créer 100 emplois. Donc c'est vraiment un ratio de 1 pour 10. Et le réutilisage, donc réutiliser des choses... ça va créer 1000 emplois, voire plus. Parce que, en fait, ça veut dire quoi, réutiliser des choses? Ça veut dire construire un écosystème qui puisse remettre en marche les choses et donc, du coup, refaire fonctionner un système local et bouclé. Donc, ça veut dire créer énormément d'emplois. Ça veut dire créer des personnes qui savent réparer. Ça veut dire des personnes qui savent composer avec de nouveaux objets, avec la création de quelque chose. Ça veut dire aussi un réseau de distribution. Ça veut dire de nouveaux magasins. Donc, c'est énormément d'emplois. Si on veut commencer à réutiliser et à réparer, c'est une économie qui se recrée. Et finalement, c'est assez formidable. Donc, au lieu de dépenser de l'argent à brûler bêtement nos déchets qui nous rapportent pratiquement rien, on pourrait gagner de l'argent à les réduire et à les réutiliser. Ça, ok. L'autre opportunité, c'est plus de ressources, mais c'est aussi, donc là, vous voyez le réseau VRAC. C'est un réseau qu'on a constitué cette année, Zero Waste France, avec tous les entrepreneurs du VRAC en France aujourd'hui, enfin tous, une grosse partie qui se sont liés, en disant comment est-ce qu'on fait devenir aujourd'hui ces entrepreneurs du VRAC une puissance ensemble, une force de frappe pour pouvoir investir les marchés. C'est franchement, si quelqu'un a envie de se lancer dans le VRAC aujourd'hui, c'est maintenant. Parce que ça, c'est du feu de Dieu. Moi, ça fait une petite année que je suis à Zero Waste France. Je suis arrivé quand on avait créé le réseau. On a gagné 50 entrepreneurs en quelques mois, quoi. Ça va super vite. Parce qu'en fait, il y a une demande. Il y a une demande énorme. Et il y a une demande parce qu'une fois qu'on a mis en place ce processus d'aller chercher ces déchets en vrac, ces produits en vrac, on peut aussi manger nos déchets, ça peut être intéressant, ces produits en vrac, ça fonctionne, c'est moins cher, c'est de meilleure qualité. Parce qu'encore une fois, la plupart de ces magasins sont bio. Et en fin de compte, c'est une économie locale qui va se créer. Et nous, on va prendre cette habitude de consommation. Et eux, ils vont grandir. Aujourd'hui, en France, il y a énormément d'entrepreneurs. Donc ça peut être du vrac liquide, ça peut être du vrac solide, ça peut être des petites roulottes de vrac. Enfin, il y a différents entrepreneurs. Mais en tout cas, la raison fonctionne. Donc oui, c'est un secteur en devenir. Et en fait, il y a bien plus que ça. C'est bien plus que seulement de la nourriture dont on parle. C'est vraiment comment est-ce qu'on réinvente encore une fois des produits. Aujourd'hui, il y a des startups qui se développent et qui lancent des choses formidables. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, il y a une exposition
qui s'appelle POC21. C'est un projet qui a été réalisé par WeShare, une association peut-être que certains connaissent. POC21, c'était quoi ? C'était de mettre pendant 5 semaines une centaine d'entrepreneurs et de makers dans un château pas loin de Paris pour leur dire, OK, il y a une urgence climatique, vous avez cette formidable ressource de savoir créer des choses. Donc les makers, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des personnes qui arrivent à... Enfin, quoi, c'est les inventeurs, si vous voulez, on appelle ça des makers. Et c'est des gens qui designent des produits, qui designent de nouvelles manières de consommer et d'imaginer la société. Et on les a mis pendant 5 semaines et ils ont créé des projets qui étaient de l'ordre d'une douche qui n'utilise que 3 litres d'eau, une éolienne qui est constructible par tout le monde avec des objets que vous allez acheter à Bricorama, des panneaux solaires, pareil, avec des matériaux. En fait, l'idée, c'était de faire des moyens aujourd'hui de créer l'énergie ou de consommer autrement avec très peu de moyens financiers et avec des outils et des choses qui sont abordables pour tout le monde. Donc ça, c'est des emplois qui vont encore une fois exploser, parce que quand on commencera à manquer de ressources, et je pense que tout le monde est d'accord, enfin, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce que de toute façon il y a une crise climatique et une crise des ressources. Donc quand on commencera à vraiment être dans la zone rouge, on aura ces personnes-là qui disent, ouais, bah, nous en tout cas on est déjà en train et on a créé quelque chose qui vous permet de vivre avec moins de ressources, beaucoup moins de ressources, et donc d'avoir un impact bien moins grand sur votre planète, et en plus de ça, bah, d'avoir une vie, d'avoir un salaire, d'avoir une maison. Enfin, je dirais, encore une fois, le but, c'est pas de retourner à l'âge de pierre, quoi. Donc une vraie opportunité. Et forcément, moins de pollution, donc moins de CO2, moins de méthane, moins de tous ces gaz qu'on connaît très bien. Alors là, vous voyez, le plan BOM, c'est un plan que Zero Waste France a porté cette année contre justement ces fameux incinérateurs d'Ivry. Donc, en fait, il est en fin de vie, cet incinérateur. Il a été créé il y a 40 ans, 50 ans. Et eux, ils voulaient reconstruire un incinérateur à la place. Donc, c'est un projet à 2 milliards d'euros d'argent public, qui a pour objectif, pendant 70 ans qui vont suivre, de continuer à brûler nos déchets. Ils ont fait ça relativement en douce, enfin avec quand même tous ces débats publics qui vont bien, mais qui font pas avancer vraiment la cause. Finalement, ils sont arrivés à un sens, ils se disent, bah, ok, nous de toute façon on a une solution, les citoyens s'en fichent, donc on va pouvoir mettre notre incinérateur tranquille. Nous, on est arrivé avec un plan en disant, mais en fait, là, les 2 milliards d'euros que vous avez utilisés pour gaspiller notre ressource, nous on peut utiliser 10 fois moins d'argent et vous proposer une démarche zéro waste dans la zone concernée, donc c'est à peu près 84 communes en Île-de-France. Créer de l'emploi, préserver la ressource, c'est vraiment un plan qu'on a designé en prenant les chiffres des flux des déchets dans la zone et vraiment en étant réaliste dans notre idée. Le but, c'était pas d'inspirer les gens, là, c'était vraiment, on a un plan concret, c'est le plan BOM, et il est encore d'actualité. Enfin, je veux dire, on va le porter et reporter et continuer à faire du lobbying jusqu'à temps que ça passe, parce que c'est solide comme plan, et derrière, on a des gens qui nous suivent. Donc ça, c'est le genre de solution qu'on peut essayer de mettre en place pour ceux qui sont plus dans cet esprit militant, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, arrêter un incinérateur ou arrêter une décharge, c'est encore une fois se dire, bah, du coup, si on peut plus traiter nos déchets comme ça, c'est-à-dire qu'on va devoir les traiter autrement, et pourquoi pas les réduire, et donc pourquoi pas créer une économie qui réduise les déchets. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc ouais, l'événement, on l'a tenté Zero Waste. Pour conclure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a, dès le début, quand on a commencé à créer la COI, on s'est demandé comment est-ce que déjà on pouvait montrer concrètement qu'on peut agir sur un événement comme ça de 5000 personnes et préserver nos ressources. Donc ça a été un travail en amont de réflexion à comment est-ce qu'on ne crée pas plus de déchets en montant l'événement. Donc de la location, du prêt, vous voyez, vos badges, c'est du carton recyclé. Enfin, ça paraît un peu bête, hein, mais en fait, imprimer quelque chose, c'est pas seulement du papier, ça fait fonctionner des machines. Alors en France, on a de la chance, hein, on a de l'électricité non carbonée, mais vous allez en Allemagne, c'est du charbon, le simple fait d'imprimer, ça émet des gaz, quoi. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on essaye d'éviter ça en amont. Alors il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins fonctionné. C'est vrai que sur l'événement en tant que tel, on a peut-être quelques problèmes de gestion de recyclage, mais parce qu'en fait ça parle de nous, ça parle de notre comportement aussi par rapport aux déchets, cette manière de considérer les déchets, de se dire que c'est pas si important que ça. Et c'est vrai que voilà, quand je me balade dans l'événement et que je vois que les biodéchets sont mélangés avec le carton et avec du plastique, je me dis, bah, en fait, on a encore du travail à faire sur juste le fait de considérer même une poubelle comme quelque chose que soit on veut éviter, soit au moins on veut valoriser. Mais bon, on avance, quoi. Le but, c'est pas de se flageller non plus, c'est se dire, petit à petit, il y en a qui sont plus sensibles à des sujets et d'autres à d'autres sujets. Bon, bah, il y a pas de souci, quoi. Mais voilà. Donc c'était ce que je voulais dire aujourd'hui et j'ai terminé. Merci.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Microclimat.
du 7 au 12 décembre 2015 sur Fréquence Paris Pluriel.
Conférences, débats, reportages, interviews.
Le climat prend le micro.
Pour suivre les mobilisations autour du climat à Paris et partout ailleurs. Microclimat, une semaine de lutte pour le climat sur FPP 106.3 FM et rfpp.net. Le contre-sommet sur les ondes.
S'il vous amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Microclimat.
Dans le vaste désert des ondes, sévissait un cow-boy mal connu. La gâchette facile, il ne bougeait pas un cil. Insensible au sempiternel.